par les deux fenêtres qui sont en face de moi, les deux fenêtres qui sont à ma gauche et les deux fenêtres qui sont à ma droite, je vois, j'entends d'une oreille et de l'autre tomber immensément la pluie. Je pense qu'il est un quart d'heure après-midi. Autour de moi, tout est lumière et eau. Je porte ma plume à l'encrier et, jouissant de la sécurité de mon emprisonnement, intérieur, aquatique, tel qu'un insecte dans le milieu d'une bulle d'air, j'écris ce poème. Ce n'est point de la bruine qui tombe. Ce n'est point une pluie languissante et douteuse. La nue attrape de près la terre et descend sur elle serrée et bourrue, d'une attaque puissante et profonde. Qu'il fait frais, grenouille à oublier dans l'épaisseur de l'herbe mouillée la mare. Il n'est pas à craindre que la pluie cesse. Cela est copieux, cela est satisfaisant. Altérez, mes frères, à qui cette très merveilleuse rasade ne suffirait pas. La terre a disparu, la maison baigne, les arbres submergés ruissellent, le fleuve lui-même qui termine mon horizon comme une mer paraît noyée. Le temps ne me dure pas et, tendant l'ouïe, non pas au déclenchement d'aucune heure, je médite le ton innombrable et neutre du psaume. Cependant la pluie vers la fin du jour s'interrompt, et tandis que la nue accumulée prépare un peu plus son sombre assaut, tel qu'Iris du sommet du ciel fondait tout droit au cœur des batailles, une noire araignée s'arrête, la tête en bas et suspendue par le derrière au milieu de la fenêtre que j'ai ouverte sur les feuillages et le nord couleur de brou. Il ne fait plus clair, voici qu'il faut allumer. Je fais aux tempêtes la libation de cette goutte d'encre.
Bienvenue à vous, habitués de Transistor, tous ceux qui depuis maintenant un an, un mercredi sur deux, pleurent, tremblent, vibrent, sourient, ou même repassent leur chemise au son des voix de Caroline, Viviana, Camille et Willem. Bienvenue à vous, qui voulez entendre encore plus de bêtises, ou qui voulez simplement vous rincer l'œil en entendant répéter que ce n'est pas la taille qui compte. Quoi, je ne peux pas dire se rincer l'œil pour une émission de radio? Mais bien sûr que si, voyons, vous savez bien qu'ici, les yeux ont des oreilles. Vous l'avez compris à ma voix dégoulinante de bonheur, pour ce premier épisode de la deuxième saison, c'est l'eau sous toutes ses formes qui est à l'honneur. Et pour le plaisir de vos oreilles, j'ai à mes côtés Agère.
Bonjour.
Qui est une jeune spécialiste des lettres modernes et que vous allez entendre dans bien d'autres émissions cette année. C'est aussi elle qui vous a introduit cet épisode avec une lecture de Connaissance de l'Est de Paul Claudel. On ne présente plus Mathilde, notre secrétaire, transhistorienne de renom, transhistorienne, pardon, de renom et critique de talent dans En Spectateur. Juste à côté, une autre nouvelle arrivante, vous ne connaissez pas encore sa voix, mais vous avez déjà lu ses textes. Céline est angliciste et elle écrit des newsletters pour égayer vos mercredis.
Bonjour.
Il y a aussi Clément, à la régie, qui remplace avec brio et casque sur les oreilles Robin. Clément, lui, ne porte pas de t-shirt à analyser, mais ne s'en tirera pas pour autant. Enfin, notre invité star, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour, mais n'aurait pas pu non plus renaître cette année. Elle a bravé les éléments et les contrôleurs SNCF pour remonter de Nice, et elle n'est pas folle. Bonjour Caroline.
Bonsoir. Et celui qui complète ce quintet de voix, c'est Nicolas, un scienteux qui prend le pouvoir en littérature. Mais moi, je pense que c'est par amour pour Terry Pratchett.
Je crois que tu as raison, en fait. Exode 14, verset 20. Il y eut la nuée, mais aussi les ténèbres. Alors elle éclaira la nuit, et l'on ne s'approcha pas l'un de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux, tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers, jusqu'au milieu de la mer. Or, au cours de la veille du matin, depuis la colonne de feu et de nuée, Le Seigneur observa le camp des Égyptiens et il mit le désordre dans le camp des Égyptiens. Il bloqua les roues de leurs chars et en rendit la conduite pénible. L'Égypte dit : Fuyons loin d'Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre l'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse : Étends la main sur la mer, que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars et ses cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revint à sa place habituelle, tandis que les Égyptiens fuyaient à sa rencontre. Et le Seigneur se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers. De toutes les forces du Pharaon qui avaient pénétré dans la mer derrière Israël, il ne resta personne, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Je ne sais pas si j'ai bien rendu le caractère sacré de ce passage, mais si vous avez eu l'impression d'être à la messe, je pense que l'objectif est atteint. Juste après la lecture, vous avez entendu « When You Believe », tiré du dessin animé « Le Prince d'Égypte », vous avez raté votre enfance si vous ne l'avez jamais vu, chanté par Whitney Houston. Alors l'eau, elle a une forte connotation sacrée, on la retrouve partout dans la Bible, mais pour les publicitaires aussi, l'eau est sacrée, le chiffre d'affaires aussi.
Maman ? Faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance.
Il me faut de l'eau. De l'eau. Petit Vittel. Petit Vittel. Mieux que ta mère pour croire que c'est de l'eau.
Bon, par contre, les publicitaires ne sont clairement pas les pros de la logique et de l'esthétisme. Quelqu'un qui connaissait, lui, son métier, et qui savait l'importance de l'eau en plein désert, c'est le grand aviateur Saint-Exupéry. Né en 1900, mort tragiquement en 1944 au-dessus de la Méditerranée, en plus d'avoir fait rêver les enfants et les adultes de toutes les générations depuis, il a écrit de nombreuses œuvres en rapport avec son métier d'aviateur.
Il souffle ce vent d'ouest qui sèche l'homme en 19h. Mon oesophage n'est pas fermé encore, mais il est dur et douloureux. J'y devine quelque chose qui racle. Bientôt commencera cette toux, que l'on m'a décrite et que j'attends. Ma langue me gêne, mais le plus grave est que j'aperçois déjà des taches brillantes. Quand elles se changeront en flammes, je me coucherai. Nous marchons vite, nous profitons de la fraîcheur du petit jour. Nous savons bien qu'au grand soleil, comme l'on dit, nous ne marcherons plus. Au grand soleil, nous n'avons pas le droit de transpirer, ni même celui d'attendre. Cette fraîcheur n'est qu'une fraîcheur à 18% d'humidité. Ce vent qui souffle vient du désert. Et sous cette caresse menteuse et tendre, notre sang s'évapore. Nous avons mangé un peu de raisin le premier jour. Depuis 3 jours, une demi-orange et une moitié de madeleine. Avec quelle salive eussions-nous mâché notre nourriture ? Mais je n'éprouve aucune faim, je n'éprouve que la soif. Et il me semble que désormais, plus que la soif, j'éprouve les effets de la soif. Cette gorge dure, cette langue de plâtre, ce raclement et cet affreux goût dans la bouche. Ces sensations-là sont nouvelles pour moi. Sans doute, l'eau les guérirait-elle, mais je n'ai point de souvenir qui leur associe ce remède. La soif devient de plus en plus une maladie et de moins en moins un désir. Il me semble que les fontaines et les fruits m'offrent déjà des images moins déchirantes. J'oublie le rayonnement de l'orange, comme il me semble avoir oublié mes tendresses. Déjà, peut-être, j'oublie tout. Nous sommes assis, mais il faut repartir. Nous renonçons aux longues étapes. Après 500 mètres de marche, nous croulons de fatigue, et j'éprouve une grande joie à m'étendre. Mais il faut partir. Le paysage change, les pierres s'espacent. Nous marchons maintenant vers du sable. À 2 kilomètres devant nous, des dunes. Sur ces dunes, quelques taches de végétation basse. À l'armure d'acier, je préfère le sable. C'est le désert blond, c'est le Sahara, je crois le reconnaître. Maintenant, nous nous épuisons en 200 mètres. Nous allons marcher tout de même, au moins jusqu'à ces arbustes. C'est une limite extrême. Nous vérifierons en voiture, lorsque nous remonterons nos traces, 8 jours plus tard, pour chercher le Simoun, que cette dernière tentative fut de 80 kilomètres. J'en ai donc déjà couvert près de 200. Comment poursuivrai-je ? Hier, je marchais sans espoir. Aujourd'hui, ces mots ont perdu leur sens. Aujourd'hui, nous marchons parce que nous marchons.
Ainsi les bœufs, sans doute, au labour. Je rêvais hier à des paradis d'orangers, mais aujourd'hui il n'est plus, pour moi, de paradis. Je ne crois plus à l'existence des oranges. Je ne découvre plus rien en moi, sinon une grande sécheresse de cœur. Je vais tomber et je ne connais point le désespoir. Je n'ai même pas de peine, je le regrette. Le chagrin me semblerait doux comme l'eau. On a pitié de soi et l'on se plaint comme un ami. Mais je n'ai plus d'amis au monde. Quand on me retrouvera, les yeux brûlés, on imaginera que j'ai beaucoup appelé et beaucoup souffert. Mais les élans, mais les regrets, mais les tendres souffrances, ce sont encore des richesses. Et moi, je n'ai plus de richesses. Les fraîches jeunes filles, au soir de leur premier amour, connaissent le chagrin et pleurent. Le chagrin est lié au frémissement de la vie. Et moi, je n'ai plus de chagrin. Le désert, c'est moi. Je ne forme plus de salive, je ne forme plus, non plus, les images douces vers lesquelles j'aurais pu gémir. Le soleil a séché en moi la source des larmes.
L'eau est revenue ! L'eau ! Le sang de la source ! L'eau ! Le coup !
La source coule !
C'est impossible !
L'eau ! Regardez !
L'eau est là !
L'eau ! L'eau est là !
Alors dans le désert, au cœur de l'Afrique, ou bien l'été sur la plage quand aucun centimètre carré de peau ne doit dépasser de la serviette parce que sinon c'est brûlure grave due au contact avec le sable cuit par le soleil, l'eau est absolument indispensable. On ne vous cache pas qu'avec le froid qu'il fait, on a tous un sourire béat en studio en imaginant la situation de la serviette sur le sable chaud. D'ailleurs, quelqu'un peut monter le chauffage ? La vraie horreur, c'est quand on a besoin d'eau et qu'on en a à portée de main. Plus effrayant à imaginer que l'ongle de votre petit doigt dérapant sur un tableau noir, voici le supplice de Tantale version gars de la marine avec The Rime of the Ancient Mariner, lu par Caroline.
The breezes blew, the white foam flew, the furrow followed free. We were the first that ever burst into that silent sea. Down dropped the breeze, the sails dropped down, 'twas sad as sad could be, and we did speak only to break the silence of the sea. All in a hot and copper sky, the bloody sun at noon, right up above the mast did stand, no bigger than the moon. Day after day, day after day, we stuck, ni brave ni motion, as idle as a painted ship upon a painted ocean. Water, water, everywhere, and all the boars did shrink. Water, water, everywhere, ni any drop to drink. The very deeps did rot. O Christ, that ever this should be! Ye slimy things did crawl with legs upon the slimy sea. About, about, in reel and rout, the death fires danced at night. The water, like a witch's oils, burned green and blue and white. And some in dreams assured were of the spirit that plagued us so. 9 fathom deep he had followed us from the land of mist and snow. And every tongue, through utter drouth, was withered at the root. We could not speak, no more than if we had been choked by soot. Ah, well-a-day, what evil looks had I from old and young. Instead of the cross, the albatross about my neck was hung.
À la voix de Caroline est tout de même un peu plus délicate. Mais bon, vous avez reconnu la version de ce poème faite par Iron Maiden. Bon, on va arrêter de jouer à se faire peur. On va se détendre. S'imaginer au bord de l'eau, ou mieux, sur l'eau. On va mettre un peu de musique classique. « Vous avez reconnu les Water Music de Handel, qui accompagnaient le roi d'Angleterre lorsqu'il naviguait tranquillement sur la Tamise. Alors, on n'est pas bien là ? On va vers la mer, on va vers la Manche, ses bateaux et ses phares.
La matinée était si belle que, sauf quand se produisait ça et là une bouffée de vent, la mer et le ciel semblaient faits de la même texture. Comme si les voiles se trouvassent fichées dans les hauteurs du ciel, ou comme si les nuages fussent tombés dans la mer. Un vapeur, bien au large, avait entraîné à sa suite un grand panache de fumée qui formait une courbe et un cercle d'un bel effet décoratif et demeurait immobile. On eût dit que l'air était fait d'une gaze fine qui gardait doucement les objets dans ses mailles et se contentait de les balancer légèrement de côté et d'autre. Et ainsi qu'il arrive par très beau temps, les falaises avaient l'air de se rendre compte qu'il y avait des navires et ceux-ci avaient l'air de se rendre compte qu'il y avait des falaises. Et les uns et les autres avaient l'air d'échanger des messages secrets. Car alors qu'il était parfois tout près du rivage, le phare, pris ce matin dans la brume, paraissait se trouver à une distance énorme. « Où sont-ils maintenant ?» se demanda Lily, regardant la mer. Où était-il ce très vieil homme qui était passé devant elle silencieusement, tenant sous le bras un paquet enveloppé de papier marron ? Le bateau se trouvait au milieu de la baie. « On n'éprouve rien, là. » se disait Cam, en regardant le rivage qui, sans cesser de monter et de descendre à ses yeux, devenait régulièrement plus lointain et plus paisible. Sa main découpait la mer et son esprit composant des dessins avec les remous et les raies de l'eau verte pénétrait dans un engourdissement obscur. Alors son imagination errait dans ce monde profond où les perles forment des grappes sur de blancs rameaux, où dans la lumière verte l'esprit tout entier se transforme et le corps à demi transparent brille, enveloppé dans un manteau de même couleur. Puis les remous se détendirent autour de sa main. L'eau cessa de se fondre, le monde se remplit de petits craquements et grincements. On entendit les vagues se briser et clapoter contre les flancs du bateau, comme si celui-ci fût mouillé au port. Tout devint très rapproché, car la voile sur laquelle James avait fixé les yeux au point qu'elle avait fini par devenir pour lui une personne bien connue, se mit à battre de bas en haut. Ils s'arrêtèrent, oscillant et attendant la brise, sous les rayons du soleil, à plusieurs milles du rivage, à plusieurs milles du phare. Tout dans le monde entier semblait frappé d'immobilité.
C'était la promenade au phare de Virginia Woolf, lue par Céline. Et oui, c'est quand même quelque chose, la mer. Bon, d'ailleurs, Virginia Woolf s'est suicidée par noyade, en son commentaire. Hein. Tout de même, c'est romantique, ils finissent par la rendre dangereuse, la beauté de la mer. Bon, on vous rappelle, sans complaisance aucune, ce petit dialogue entre Emma Bovary et son futur amant Léon.
« Je ne trouve rien d'admirable comme les soleils couchants, » reprit-elle. « Mais au bord de la mer, surtout. »«
Oh, j'adore la mer, » dit Monsieur Léon.
« Et puis, ne vous semble-t-il pas, » répliqua Madame Bovary, « que l'esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limite dont la contemplation vous élève l'âme et donne des idées d'infini, d'idéal ?»«
Il en est de même des « paysages de montagne, » reprit Léon. « J'ai un cousin qui a voyagé en Suisse l'année dernière et qui me disait qu'on ne peut se figurer la poésie des lacs, le charme des cascades, l'effet gigantesque des glaciers. On voit des pins d'une grandeur incroyable en travers des torrents, des cabanes suspendues sur des précipices et à 1000 pieds sous vous des vallées entières quand les nuages s'entrouvrent. » Bon, voilà. Emma, on sait comment elle a fini, hein. Bon, par contre, on ne sait pas trop comment se finit le fameux roman inachevé de Louis Aragon, œuvre poétique et autobiographique. Ah mince, mes jeux de mots sur l'eau sont drôles sur mon script, mais ils font un peu pétard mouillé au micro. Pendant que je retravaille mes textes, rien que pour vous, la voix d'Agère.
Le long pour l'un, pour l'autre est court. Il y a deux sortes de gens. L'une est pour l'eau comme un barrage et l'autre fuit comme l'argent. Le mot à mot du mot amour, à quoi bon courir à sa suite ? Il est resté dans la Dordogne avec le bruit prompt de la truite. Au détour des arbres profonds, devant une maison perchée, nous avions rêvé tout un jour d'une vie au bord d'un rocher. La barque à la mare dort au mort des mares, dans l'ombre qui mue. Feuillard et ramure, la fraîcheur murmure, et rien ne remue. Sauf qu'une main lasse, un instant déplace, un instant pas plus. La rame qui glisse, sur les cailloux lisses, comme un roman lu. Si jamais plus tard tu reviens par ce pays jonché de pierres, si jamais tu revois un soir les îles que fait la rivière, si tu retrouves dans l'été les bras noirs qu'ont ici les nuits, et si tu n'es pas seul, alors dis-lui de s'écarter, dis-lui de s'écarter, le temps de renouer ce vieux songe illusoire, puis fais porter le mot amour et le reste au brisoir.
C'est...
l'instant, c'était Ocean Soul de Nightwish pour vous mettre de bonne humeur. Oui, oui, vous avez bien compris, la fille veut se suicider en se noyant parce qu'elle aime la mer. Ça vous rappelle pas quelqu'un d'autre dont on a lu un texte plus tôt ? Bon, vous l'avez compris, c'est super ambiance ici sur Transistor, et le texte suivant va vous remettre d'aplomb, ou pas.
Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles, on entend dans les bois lointains des halalis. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercées mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule, sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle éveille parfois dans un aune qui dort quelques nids d'où s'échappe un petit frisson d'aile. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Ô pâle Ophélia, belle comme la neige, oui, tu mourus enfant par un fleuve emporté. C'est que les vents tombants des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. C'est qu'un souffle tordant ta grande chevelure à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits, que ton cœur écoutait le chant de la nature dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. C'est que la voix des mers folles, immense râle, brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou, s'assit muet à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve, ô pauvre folle, tu te fondais à lui comme une neige au feu. Tes grandes visions étranglaient ta parole, et l'infini terrible effara ton œil bleu. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis, et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles, la blanche Ophélia flotter comme un grand lit.
Merci Rimbaud et Céline pour avoir lu Rimbaud. On l'a compris, l'eau peut être dangereuse, voire mortelle. Cependant, pour vous qui écoutez, citadins détachés de la nature, il y a pire.
L'eau fraîche sur mon visage, j'adore ça. Mais avec le calcaire, ma peau sensible se dessèche, elle tiraille. Heureusement, Mixa a pensé à moi, avec son nouveau soin de jour confort visage.
Caroline, toi qui vis au bord de la mer et qui a l'intention de te jeter à l'eau, vas-y, entame pour nous cette discussion.
Bah oui, tant qu'à faire, puisque là, on est en discussion libre. J'aurais demandé à Agère le premier texte de Claudel, donc, qui était très agréable à écouter. Mais du coup, j'ai pas tout à fait compris de quoi ça parlait, à part qu'il y avait un poème qui était écrit.
L'intitulé de ce poème en prose, c'est « La pluie », donc ça parle de la pluie. En fait, c'est le poète qui observe une sorte de déluge et il lit ça au déluge. Il y a beaucoup d'accents bibliques dans ce texte, notamment parce que Claudel était un fervent catholique, on va dire ça comme ça. Et il assimile en fait l'écriture de ce poème à la récitation d'un psaume, donc au rythme du déluge divin.
Donc du coup, on a deux textes bibliques dans la séance alors qu'on ne l'avait pas prévu.
Et oui, et oui.
Moi, je me demandais, est-ce que vous comprenez que l'eau, ça déchaîne tant de passion, parce qu'à chaque fois, bon, entre les gens qui se suicident, il y en a qui se suicident à l'arsenic parce qu'ils adorent la mer, il y en a qui se suicident en se noyant parce qu'ils adorent la mer, enfin, excusez-moi, mais est-ce que vous comprenez ces fanatiques de l'eau qui décident de se noyer, en fait?
Oui, je pense qu'il y a de toute façon une sorte d'attrait romantique et un peu mélancolique pour les éléments naturels et...
Certes, mais mourir par noyade, c'est quand même horrible. Enfin, je veux dire, si je devais choisir de me suicider, je choisirais pas la noyade. Hein. Enfin,
c'est un tout autre débat.
D'avoir un moment de panique assez affreux. Enfin, je comprends pas trop comment est-ce qu'on peut choisir de se suicider par noyade. Bon, voilà.
Moi, je pense qu'au-delà du thème romantique de l'eau mortifère, on a aussi quelque chose. Alors, si on voulait un peu partir dans un délire psychanalyste de
l'inconscient. Dommage, je croyais que tu allais dire, toi, de quelle façon tu voulais te suicider.
plus tard,
dommage.
On a, je pense, il y a vraiment une relation entre l'eau et l'inconscient, ou même ce qui avait été montré par Gaston Bachelard dans un essai qui s'appelle « L'eau et les rêves ». Et en fait, il avait montré que l'eau était... dans beaucoup de textes, qu'on retrouvait ce thème de l'inconscient qui était tout le temps là, présent. Et si on voulait partir dans des délais un petit peu freudiens. Pourquoi pas quand on était dans le ventre de notre mère, dans le liquide amniotique, on baignait déjà dans cette eau. Donc en fait, voilà, les thèmes de la naissance, de la mort sont comme ça, assez bizarrement liés.
Et dans la même veine psychanalytique, on a quand même ce rapport entre les marins et la mer. La mer, cette espèce de puissance féminine, mais qui vénère comme une déesse, qui a ses humeurs, qui peut être extrêmement dangereuse, qui devient une tombe pour la plupart d'entre eux. Et qu'on voit par exemple dans mon poème. Donc, c'est l'histoire du poème. Donc, c'est un équipage qui part visiter des mers inexplorées au pôle sud, qui se trouve pris dans les glaces. Et ils ont la visite d'un albatros qui vient vers le bateau et qui est censé être quand même un oiseau qui porte chance, qui accompagne les marins. Et pour une raison qui échappe à tout le monde, le vieux marin qui raconte l'histoire le tue. Et au début, ça va. Et puis après, il y a le vent qui tombe et le bateau se retrouve bloqué. Donc, c'est le passage que j'ai lu. Bloqué avec... Donc, à la fois, il y a la glace, à la fois, ils ont très chaud, ils meurent de soif. Tout le monde commence à crever. Il n'y a que le vieux marin qui survit entre la vie et la mort. Et donc, tu as ce rapport entre la mer qui est à la fois un territoire que l'homme peut maîtriser, peut explorer, et qui peut aussi rapidement devenir dangereux s'il y a donc cette mer qui enferme, qui devient une prison, et en même temps l'absence d'eau douce qui les fait mourir.
Dans les textes qu'on a lus, on a souvent, d'un côté, alors c'est peut-être aussi nous qui avons choisi nos textes comme ça, mais à chaque fois on a d'un côté la mer, la grande étendue d'eau, mais qui est juste décorative, qu'on contemple plus qu'on ne la boit pas. Et après, on a l'eau qu'on boit, et dans tous les textes qu'on a trouvé là, c'est vraiment, on peut pas la boire, on a soif, on a l'eau au travers du thème de la soif, mais on n'a pas... Est-ce que vous connaissez des textes qu'on aurait pu lire, où ça parle juste de l'eau, genre en dehors des pubs pour Vittel, un texte où il y aurait juste une description de l'eau qu'on boit quotidiennement, l'eau qu'on boit tous les jours, mais qu'on remarque pas vraiment?
Oui, allô. Alors oui, moi en fait c'est pas exactement sur ce que tu as dit, le thème de l'eau à boire et qu'on ne remarque pas, mais c'est quand même à propos de l'eau à boire et ça rebondit aussi sur ce que tu disais à propos de l'eau et de l'inconscient. Ça me rappelle pas mal de passages du Seigneur des Anneaux parce que il y a dans le Seigneur des Anneaux, il y a une double vision de l'eau, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'eau comme quelque chose de très menaçant, quelque chose dans lequel on s'enfonce littéralement. Je pense le passage dans le Marais des Morts, lorsque Frodon, je crois que c'est dans les Deux Tours, tombe et se finalement alpagué par tous ses morts. L'eau est un élément menaçant. Pareil lorsque Gollum finalement trouve l'anneau et le vole. Merci Nicolas. Il est en situation de pêcheur. Exactement ça. Il est en situation de pêcheur et il y a l'eau finalement apparaît vraiment comme quelque chose de menaçant. Et à côté de ça, quand Sam et Frodon sont dans le Mordor, eh ben, ils n'ont pas d'eau et ils se retrouvent face à ce problème de l'eau où la seule eau qu'ils ont à boire, c'est une eau empoisonnée, l'eau du Mordor qui est empoisonnée, où il n'y a quasiment pas d'eau, c'est un pays sec et froid. Et du coup, voilà, c'était juste pour dire ça que ça me faisait penser à cette double dimension de l'eau dans Le Seigneur des Anneaux.
Merci Clément.
J'approuve cette lecture.
C'est l'angliciste qui parle.
Oui,
d'ailleurs, moi, le fait que tu parles du Mordor avec l'eau, ça m'a fait penser à cette image que j'ai vue sur Internet un jour. Oui, alors, c'est une image d'Internet. Hein, c'est pas, vous attendez pas à quelque chose qui vole très haut. Vous voyez vous savez, les trucs pour les douches, pour régler la température, où il y a un côté froid et un côté chaud. Et donc, vous voyez deux fois la même photo. Et d'un côté, c'est ce qui est indiqué, c'est-à-dire froid d'un côté et chaud de l'autre. Et juste à côté, ce que c'est en réalité. Donc vous avez froid et chaud juste à côté, au milieu. D'un côté, vous avez Arctique et de l'autre côté, Mordor.
Je l'ai vu aussi. C'était un gag.
Ou probablement, c'est pas là que je passe ma vie. Non, pas du tout, c'est faux.
Ça vole très haut. Moi aussi, ça m'a fait penser à quelque chose qu'a dit Clément. Donc les marais, effectivement, l'eau sale qui pourrit, c'est pas vraiment un aspect qu'on a ici. On a même... Ophélie qui meurt dans sa tombe aquatique, c'est au contraire, c'est extrêmement esthétique, quoi, avec toutes les fleurs et tout.
On a discuté avec Nicolas, on aurait pu éventuellement débattre sur... on avait pensé au Hussard sur le toit et à la mort à Venise, sur le thème de l'eau mortifère, là, pour le coup, parce qu'elle peut être vectrice de maladies. C'est un autre thème.
On fera... toute une émission sur les maladies, sur le choléra.
Le choléra. Oh,
Ça va être trop cool.
Et on invitera Caroline, parce qu'apparemment, elle ne peut plus se passer de nos yeux et de nos oreilles.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés.
Voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de la saison 2 des yeux ont des oreilles, le numéro 15. Merci à Clément, à la régie, et pour aussi sa participation. Merci à Mathilde, Céline et à Ger, mais surtout à Caroline, qui est venue pour cette émission, voilà, qui nous a conseillé, qui nous a permis de préparer l'émission. Elle lève les yeux au ciel de désespoir, parce qu'elle en a marre que je vante ses qualités. En parlant de vanter ses qualités, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller écouter la saison 1, et surtout d'aller fourrer le nez dans un livre connu, inconnu, ancien, récent, intelligent ou très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille, que descanse à ne passe.
Merci.
Bruit de tempête mêlé de tonnerre et d'éclairs. À bord d'un navire luttant contre une mer déchaînée, un capitaine et un maître d'équipage.
Maître !
Ici, capitaine. Comment va ?
Bien. Presse les hommes, mon bon. Qu'on se démène et vivement, sans quoi nous nous échouons.
Il sort, entre les matelots.
Ohé, les gars ! Hardi, hardi, les gars ! Preste, preste ! Amenez le hunier. Attention au siffle du capitaine.
À la tempête.
Va, souffle à en crever, pourvu qu'on ait du champ.
Entre Alonso, Sébastien, Antonio, Ferdinand, Gonzalo et d'autres.
Veille au grain, brave maître d'équipage. Où est le capitaine ? Appelle tous les hommes.
Restez donc en bas, je vous en prie.
Où est le capitaine, maître ?
Vous n'entendez pas, peut-être ? Vous êtes dans nos jambes, restez dans vos cabines. Vrai, vous aidez la tempête.
Allons, mon brave, un peu de patience.
Quand la mer en aura, au large, ces braillardes.
Montrant les vagues.
Vous croyez que ça les arrête ? Un nom de roi ? Silence, à vos cabines. Laissez-nous tranquilles.
Rappelle-toi pourtant qui tu portes à bord, mon bon.
Personne que j'aime mieux que moi-même. Vous êtes conseiller ? Eh bien, si vous savez enjoindre le silence à ces éléments et ramener tout de suite la paix, nous ne toucherons plus à un cordage. Usez voir de votre autorité. Si vous n'en pouvez mais, alors soyez reconnaissant d'être encore en vie. Regagnez votre cabine et préparez-vous au coup de guignon s'il doit venir. Hardi, les gars, ôtez-vous de là, vous dis-je !
Il sort.
Ce gaillard-là me rassure fort. Je ne lui vois aucun signe de noyade, mais la mine d'un parfait gibier de potence. Tiens ferme pour sa pendaison, bon destin, et de sa corde fatale fais notre câble de salut, car les nôtres ne nous profitent guère. Si l'homme n'est pas né pour être branché, notre cas est pitoyable.
Rentre le maître, ils sortent.
Amenez le mât de hune, vivement, amen, amen, à la cape avec la grand voile.
Crie en bas.
Sacré braillard, ils font plus de vacarme que la tempête et la manœuvre.
Rentre Sébastien, Antonio et Gonzalo.
Encore ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Faut-il qu'on lâche tout et qu'on aille au fond ? C'est boire la tasse que vous voulez ?
La vérole t'étouffe, aboyeur de blasphème, chien sans pitié.
Faites donc le travail alors.
OJB, dog, OJB, fils de garce, impudent gueulard, nous avons moins peur de nous noyer que toi.
Se noyer, lui ? Non pas, je m'en porte garant, quand bien même le navire serait aussi frêle qu'une coquille de noix et perdrait comme une fille qui a des fuites.
Au plus près du vent, au plus près, hissez les deux basses voiles, au large, au large !
Entre les matelots ruisselants.
Tout est perdu !
En prière !
En prière !
Tout est perdu !
Quoi, va-t-il falloir qu'on boive la goulée froide ?
Le roi est en prière et le prince. Allons nous joindre à eux. Nous avons le même sort.
J'enrage !
Nous sommes bel et bien floués de notre vie par des soulards. Cette canaille à grande gueule mériterait d'être lavée par 10 marées.
Moi, je tiens qu'il sera pendu, quand chaque goutte jurerait contre et bâillerait pour l'engloutir.
Nous coulons !
Ayez pitié de nous ! Adieu ma femme, mes enfants !
Nous coulons !
Allons tous sombrer avec le roi !
Prenons congé de lui.
Ils sortent.
Je donnerais bien 1000 lieues de mer à cette heure pour un arpent de méchante terre. Eau de bruyère, pain rouge, n'importe quoi. Les volontés d'en haut soient faites, mais j'aimerais mieux mourir d'une mort sèche.
Fracas de naufrage.